Ah, mes très chers et mes respectés, les gros de gros chefs, les gros calacas de la grande, grande, grande association de l'amour au PH, association de bienfaisance à caractère spirituel, association dont le président fondateur Papa Guy, mille fois c'est quoi beau, misoamina, baké, colo, bouton, quangolom, de kibossi, basalava, limbo, batalava, limbo, mon gabio, vidibio, recevez mes salutations les meilleures, mes salutations cordiales, mes vives salutations, mes salutations plus distinguées, mes salutations fraternelles, mes papas, mes mamans, mes jeunes et vieux enfants du monde entier. Que l'Éternel nous bénisse tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 21 juillet 2018. Il est 10h37, heure de Paris. Nous allons continuer notre thème relatif à la fête anniversaire de la rémission des péchés. Que nous allons fêter, célébrer du 26 au 29 juillet 2018. Normalement, cette fête doit être célébrée à la ville sainte. Je vous rappelle que Kibossi Garcia FCO est devenue la ville sainte de l'Éternel Dieu au PH Sebaot le 9 août 2007. À 23h55. Et bien, mes bien-aimés, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons demander à notre Dieu et Père, au plus haut des cieux, de nous orienter, de nous diriger, de nous canaliser, de nous soutenir tout au long de cette prédication par son Esprit. Que l'Éternel, toute sa face vers nous, nous accorde la paix du corps, de l'âme et de l'esprit, la rémission de nos péchés et la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Prions. Ô Dieu trois fois saint, au plus haut des cieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu, l'unique, le véritable Dieu, Pugotulendo, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, omnipuissant, le Dieu des armées. Ô Père, l'humanité ne sait plus sur quel pied danser en ce moment, car les esprits des ténèbres ont été lâchés partout. Et ils ont investi tous les milieux, sans distinction, pour perdre la majorité. Et les enfants sont tourmentés nuit et jour par ces esprits qui savent que le temps qui leur est imparti touche à sa fin. Et sachant qu'ils vont disparaître définitivement de la terre, et ils entraînent l'humanité à la seconde mort, à la disparition avec eux. Quelle situation digne de pitié pour l'humanité qui ne comprend point, pour les enfants qui se disent de Dieu, qui ne comprennent point la situation actuelle, les événements actuels, et où l'ennemi nous emmène. Nous sommes permissifs, nous permettant le mal. Nous sommes impuissants devant le mal. Et nous acceptons que le mal s'installe en nous. Quelle situation digne de pitié. Nous n'avons plus de force pour combattre le mal, alors que nous avons prêté serment pour être des fidèles adorateurs de Dieu qui l'adore en esprit et en vérité. Et qui ont pour ennemi le mal, Satan, le monde des ténèbres. Ô Dieu trois fois saint, rappelle-nous notre serment devant toi. Rappelle-nous toutes ces bonnes choses que nous avons apprises et qui ont fait de nous les serviteurs de l'Éternel, trois fois saint. Aujourd'hui, nous ne le sommes plus à cause des coutumes coupables de ce monde que nous avons adopté, à cause de nos comportements qui ne sont plus bons, dignes de comportement des adorateurs de Dieu, à cause de nos actions, nos œuvres mauvaises, l'idolâtrie, ô Dieu, l'apostasie. Ô Dieu, la rébellion, ô Dieu, la désobéissance, ô Dieu. Ô Père trois fois saint, aie pitié de nous en ce jour, ô Dieu, où ton corps est par terre, car les ennemis l'ont mis à genoux et l'ont achevé. Oui. Oh Dieu, aie pitié de nous, car nous sommes dans le moment le plus sombre de notre histoire de la spiritualité. Sur notre chemin, ô Dieu, nous avons rencontré le deuil et nous frappe, ô Dieu. Les ténèbres nous couvrent aujourd'hui et à tel point que nous ne voyons plus rien, nous n'entendons plus rien. L'espoir s'en est allé, l'amour qui nous unissait s'en est allé. Et la haine remplace à l'amour, la division et tous les traits enflammés du malin au milieu de ton peuple. Nous sommes méconnaissables, ô Dieu. Ô Père, que ta puissance, ta divine puissance, ô Dieu, nous revivifie, nous redonne espoir et nous comble de toutes sortes de grâces afin que nous puissions relever le défi, mettre fin à celui qui est à l'origine de tous nos malheurs, écraser sa tête. Nous te remercions, ô Dieu, pour tout ce que tu vas nous apprendre, pour tout ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, ô Dieu, comme cela est fait au ciel. Père trois fois saint, nous te remercions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Eh bien, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons revenir sur ce que nous avons dit la dernière fois. La dernière fois, nous avons parlé de la famille, la parole de Dieu. C'est ça. C'est l'histoire d'une famille que Dieu veut créer, que Dieu veut susciter sur la terre. Mais une famille qui est liée à lui. C'est lui le père géniteur de cette famille. Voyez? Et dans notre Bible, on parle de la création, certes, mais c'est plus que cela, voyez? Parce que Dieu ici ne crée pas seulement, mais il engendre, voyez? Ce qu'il donne vie, voyez? Il prend ce qu'il a de lui et il l'introduit dans l'homme, sa présence dans l'homme, voyez? Afin que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Donc on voit Dieu engendré, Dieu mettre au monde, Dieu enfanté. Voilà. Hein? Adam et Ève ne sont pas seulement des créatures comme ça, comme on l'entend. Hein? Mais ils sont véritablement, eh ben, les enfants de Dieu, puisqu'ils émanent de lui. Voyez? Avant qu'ils soient chair, ils existent déjà. Ils sont dans le sein du Père avant même d'exister. Et Dieu les établit déjà avant de le faire venir sur cette terre matérielle. Ils sont déjà établis. Donc leur établissement, c'est avant qu'ils viennent sur le domaine terrestre, vous voyez. Et ils sont nommés déjà. Depuis le sein du Père, ils sont établis pour former la grande famille du Père sur la terre. Voyez? Donc Adam et Ève, ce sont des créatures exceptionnelles, seules à l'image, à la ressemblance de Dieu véritablement. Voyez? Donc ça, c'est très important. Et toute l'histoire de la Bible est autour de ces deux personnes, voyez, ici. Hein? Parce que ces deux personnes-là, comme je l'ai répété tout à l'heure, sont très importantes pour Dieu. Ce sont ses enfants. Et ici, donc Adam et Ève et Dieu ont eu une relation de père et de fils ou de père et de fille. Adam a une relation filiale avec Dieu, ainsi que Ève. Voyez-vous ici? Donc, c'est une famille qui est là, que Dieu établit sur la terre. Et lui, il est le Père Dieu, le Père d'Adam et Ève. Oui. Et Dieu veut être le grand-père. Mais oui, bien sûr, de l'humanité qui va venir. Vous voyez? Et qu'il y a eu un problème. Il y a eu le péché originel qui a cassé cette famille. Et cette famille s'est divisée. Vous voyez? Dieu a voulu tout simplement arrêter cette entreprise. Vous voyez? Donc, si Dieu laissait Adam et Ève comme ça, Adam et Ève allaient mourir éternellement, voyez? C'est-à-dire qu'Adam et Ève allaient être éloignés éternellement de Dieu. Ils connaîtront des souffrances, ils connaîtraient des souffrances éternelles, l'éternité en éternité. Ce qu'on appelle la mort éternelle, c'est la mort de l'âme, la mort du corps et la mort de l'âme. La mort de l'âme, mais c'est une mort sans la présence de Dieu. C'est-à-dire, c'est une vie, oui, excusez-moi, sans Dieu. Oui, hein? Et Dieu, par principe, c'est le bien. Hein? Dieu, par principe, c'est le bonheur. Dieu, par principe, c'est la liberté. Dieu, par principe, c'est la joie. Oui? La joie qui ne finit point. Dieu, par principe, c'est l'amour. Vous voyez, vivre sans Dieu, c'est vivre sans amour. Vivre sans Dieu, c'est vivre sans lumière. Vivre sans Dieu, c'est vivre tout le temps dans le mal. Vivre sans Dieu, c'est vivre dans la souffrance qui ne finit point. Voyez? Vivre sans Dieu, etc., etc. Voyez? C'est être, vivre sans liberté, etc. Voyez? Hein? La mort éternelle, c'est une vie, avec petit v. Voyez? L'âme vit, mais dans les tourments, dans les souffrances atroces, abominables. Et ces souffrances sont éternelles. L'âme vit dans l'obscurité, une obscurité qui est éternelle, épaisse. L'âme vit enchaînée avec des chaînes, grosses et courtes, vous voyez, et sur un petit tabouret. Et c'est pas fini. L'âme vit, et ben, brûle, hein, dans un feu qui ne s'éteint point. Mais c'est pas fini. Vous voyez que l'âme n'a pas d'assise. Vous voyez? L'âme flotte. Il n'a pas de lieu pour s'appuyer, vous voyez? Bref, vous voyez? Ce qu'on appelle la seconde mort, c'est ça, vous voyez? C'est une vie dans les souffrances qui ne finissent point. Et c'est une vie de torture de l'éternité en l'éternité. C'est ce qu'on appelle vivre sans Dieu. Voilà la situation qu'allaient connaître Adam et Ève. Et l'humanité, bien sûr, qui vient d'eux. Et alors, cette situation-là, vous voyez qu'elle a été réglée par, d'abord, l'intervention des anges. Les anges des cieux sont intervenus auprès du Père pour que le Père puisse pardonner Adam et Ève. Vous voyez ici, et je vous ai parlé de la repentance et de la réconciliation d'Adam et Ève aussi. Ils ont fait un effort, ils ont fait un pas très important vers l'Éternel pour lui demander pardon, réparation, vous voyez. Et leur prière qui a duré 40 jours et 40 nuits a été accompagnée par ces anges-là. Dont le principal ici est Kongo, l'archange Kongo. Celui qu'on appelle l'archange Kongo. Dans la Bible, on l'appelle Michel. Vous voyez, hein? De l'Apocalypse 12, on parle de Michel combattit le dragon. Ce Michel-là, c'est l'archange Kongo. C'est celui-là qui intervient, n'est-ce pas, auprès du Père pour régler le problème d'Adam, n'est-ce pas? Donc il a plaidé la cause d'Adam. C'est lui qui est le défenseur d'Adam. L'avocat par excellence d'Adam, c'est lui, cet ange de l'Éternel, le chef des armées célestes, qu'on appelle l'archange Kongo. D'où le peuple issu d'Adam porte le nom de l'archange, celui qui a plaidé sa cause devant l'Éternel. Vous voyez que ces anges ont accompagné la prière d'Adam jusqu'à ce que Dieu s'est repenti. Le 40e jour, eh ben Dieu a fait table rase. Il a dit, bon, J'ai écouté la prière d'Adam, j'ai senti à quel point il a reconnu son tort, le mal commis, et là, il vient de comprendre qu'il ne peut pas vivre sans moi, et sans son Dieu. Alors, allez-y, aidez-le à s'en sortir, n'est-ce pas? Et je vais lui pardonner, je lui remettrai ses péchés, voyez, et le ferai revenir sur sa terre natale, lui et sa femme. Voyez. Donc voilà ce qui s'est passé au commencement. Hein. Je vous rappelle toutes ces choses-là, parce que c'est très important hein, pour la suite. Vous voyez, d'où ben, on parle de la rémission des péchés. Péché, c'est lequel d'abord? C'est le péché originel, vous voyez, hein? Donc ne perdez pas de vue. C'est quel péché qu'on remet? C'est le péché originel qui est le plus gros, vous voyez ici. C'est le péché originel qui est une porte qui ouvre, vous voyez, la porte à d'autres péchés qui sont venus après, vous voyez. Si il y a des péchés, le premier c'était le péché originel. Le péché originel ici, c'est Adam et Ève qui perdent leur privilège, qui perdent le pouvoir que Dieu leur a donné sur la terre, un pouvoir légué par l'Éternel. Oui, c'est Adam et Ève ici qui sont dépouillés, déchus, voyez, et leur royaume, la terre, a été prise par leurs ennemis qui les ont poussés à commettre ce péché. Voyez-vous ici. Donc le péché originel a fait que nous puissions perdre la terre, n'est-ce pas, notre héritage. Et que la terre ait été prise par les forces du mal. Quand on parle de forces du mal, c'est les adversaires de Dieu, c'est les ennemis de Dieu, donc Satan. Voyez, ici, hein. Et alors, nous sommes devenus des exilés sur notre propre terre, la terre qui nous appartient, sur notre propre terre. Vous voyez, hein? Je vous ai parlé de la notion de la terre, etc. Vous voyez? La rémission de péché veut dire nous enlever les péchés. Mais d'où viennent ces péchés? Vous voyez, les péchés sont venus après. Vous voyez? On ne va pas accuser Adam et Ève d'avoir commis tous les péchés du monde, oui. Les péchés sont venus après, voyez, lorsque sont nés d'Adam et Ève, et les enfants, voyez, dans Caïn ici, voyez, je vous parle de l'histoire de Caïn, Caïn ici qui est victime, voyez, ici, qui est tributaire, qui est, voyez, de ce que papa et maman ont commis, voyez. C'est Caïn qui paye ici, si vous voulez, les pots cassés. Hein? Et Caïn ici est la personne par laquelle Satan a commencé son entreprise, vous lisez dans la Bible, voyez. Et jusqu'à ce que Satan a multiplié toutes sortes de péchés sur la terre, mais afin de condamner une bonne fois pour toute l'homme. Car Satan sait que tant qu'il y a le péché, l'homme ne peut pas voir la face de Dieu. Tant qu'il y a le péché, l'homme reste exilé. Tant qu'il y a le péché, l'homme ne retrouvera jamais sa dignité. L'homme ne retrouvera jamais la paix. L'homme ne retrouvera tout simplement jamais son créateur, son père, son grand-père. Oui. Donc il faut maintenir le péché. Il faut multiplier le péché. Et le péché devient ici des chaînes qui lient l'homme aux prisons de la mort, les chaînes qui le maintiennent captifs de la mort. Voyez-vous ici, le séjour des morts, des forces du mal, du monde des ténèbres. Voyez, le monde des ténèbres existe ici, au milieu de l'humanité, parce qu'il y a le péché. Vous voyez, mes bien-aimés, mais n'oubliez pas, ne perdez pas de vue, le péché originel. Donc c'est ça, le péché originel qui a entraîné tout ça. Donc, pour abolir, pour effacer tous les autres péchés qui en découlent, mais il faut commencer par le péché originel. C'est-à-dire qu'il faut fermer la porte, n'est-ce pas, qui permette aux autres péchés de rentrer au milieu de l'humanité. Et la porte, elle est où? C'est le péché originel. Donc, lorsqu'on parle de la rémission des péchés, il s'agit d'abord du grand péché, le péché originel, quand ôta, voyez, comment il s'est appelé le Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Le péché, c'est lequel d'abord? C'est le péché originel. Voyez-vous, mes bien-aimés, c'est ça qui est très important que les frères et sœurs doivent comprendre ici. C'est le péché originel, eh ben, qui a entraîné tout ce désastre, tout ce chaos, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, pour que nous puissions revenir au bercail, pour que notre famille soit restaurée, réhabilitée, il faut que Dieu fasse sauter le péché originel. Donc, pour faire sauter le péché originel, il n'y a pas 1000 chemins. Il faut aller droit chez les concernés. Qui est qui? Mais Adam et Ève, tout simplement. Vous voyez? Or, cette histoire a été déjà réglée au commencement. Vous voyez? Voyez-vous que au commencement, Adam et Ève, au commencement, excusez-moi, je voulais dire, au commencement déjà, Adam et Ève sont conscients du mal qu'ils ont commis à l'Éternel. Vous voyez? Ils ont pris conscience de cela. Vous voyez? Du péché originel. Ça leur a fait beaucoup de tort, beaucoup de mal. À tel point que, ben, ils ont été contraints, voyez-vous, mes bien-aimés, de demander pardon. Vous voyez? De demander pardon à Dieu. Mes bien-aimés. Et lorsqu'ils ont demandé pardon pour le péché originel, excusez-moi, il y a quelque chose qui m'a un peu distrait. C'est difficile lorsqu'on fait des prédications. Des fois, on cherche un endroit calme, mais des fois, ce n'est pas calme, vous voyez. Il y a toujours quelque chose qui perturbe. C'est, vous voyez, ma télé, les Bassidi. Donc, je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Excusez-moi, hein, j'ai perdu un peu le fil d'idée parce que j'ai été un peu perturbé par un appel. Vous voyez, hein? Ben, alors, donc, je disais tout à l'heure, mes bien-aimés, vous voyez, que Adam et Ève avaient déjà pris conscience du péché originel dès le commencement. Donc, ils ont demandé pardon de ce péché-là, pour ce péché-là. Et Dieu leur a accordé le pardon, mais il leur a dit, c'est pas maintenant, mais c'est à la quatrième génération que je vous accorderai la rémission de vos péchés. Hein? Il a dit la quatrième génération. Vous voyez? Mais il faut d'abord que moi-même je vienne. N'est-ce pas vous sortir mais de la situation dans laquelle vous vous êtes mis. Hein? Et voilà. Mais le problème a été déjà résolu, réglé. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Lorsqu'on lit le livre de la Genèse, eh bien, on comprend, hein, Genèse 3, que je vous ai donné la dernière fois, on comprend ici, lorsque Dieu parle à Adam et Ève et le serpent, on voit bien Dieu promettre eh bien, la fin du règne du serpent qui a entraîné Adam et Ève dans cette situation. Vous voyez, que sa tête sera écrasée. Voyez-vous ici, hein? C'est ça la finalité. Donc l'affaire est réglée. Hein? Et Dieu parle d'une postérité de la femme. Vous voyez? Donc à la fin, il va avoir la postérité de la femme, c'est-à-dire les vrais enfants de Dieu, les enfants de Dieu, et la postérité du serpent, les faux enfants de Dieu, enfin, les enfants du diable, n'est-ce pas? Donc il y aura deux humanités qui vont s'affronter à la fin. C'est ce que nous voyons actuellement. Mais Dieu promet la victoire. Mais les enfants de Satan vont triompher. Les enfants de Satan auront le pouvoir. Les enfants de Satan auront tout. Vous voyez? Ils vont dominer l'humanité à la fin. Donc, il dit, il y aura l'inimitié entre vous, les enfants du serpent, et les enfants de Dieu. Ils vont vous mordre au talon. Vous voyez ici? Donc, les enfants de Satan vont avoir l'ascendance, le dessus sur les enfants de Dieu. Ils vont même arriver à leur inoculer un venin mortel. Et ici, on voit bien que les enfants la progéniture, la postérité de la femme sera mordue au talon, hein, ou la femme elle-même, dans d'autres versions. Donc on voit bien ici le peuple de Dieu être attaqué par le serpent, mordu, vous voyez, le peuple de Dieu aura le venin. Et le peuple de Dieu va tomber dans le coma et même mourir, en mourir, vous voyez. Mais Dieu promet la résurrection de la progéniture de la femme, vous voyez. Donc Dieu donnera la force à la progéniture de la femme afin que celle-ci écrase finalement la tête du serpent. Voyez-vous ici. Donc la situation va se renverser par la puissance de Dieu. Donc Dieu permettra à ce qu'il arrive ce qui arrive aujourd'hui. Voyez, mes bien-aimés, hein? Mais sachez-le que Dieu va renverser la situation. Parce que la finalité de ça, c'est la justice de Dieu. Et Dieu a rendu justice déjà. Comme disait le Christ, le prince de ce monde est déjà jugé. Mais il faut que ces événements prédits se passent, se déroulent. Et que la progéniture, la postérité de la femme soit mordue au talon. Que cette postérité tombe, soit sous le contrôle de la postérité du serpent. Et alors, Dieu fera que la situation se renverse, c'est-à-dire que Dieu va venir relever la postérité de la femme, piétinée, mordue, inocule, contaminée. Voilà. Dieu va donc le soigner. Hein? On va voir ça tout à l'heure, je vais expliquer tout à l'heure comment ça va se passer. Hein? Et on sera tous fixés là-dessus. Donc on voit déjà dans l'Apocalypse, plutôt dans la Genèse, Dieu promettre l'écrasement, donc c'est-à-dire la fin du règne du serpent. Pourquoi? Mais parce qu'il y a le problème du péché originel qui est résolu. Vous voyez? Mais on aura les bénéfices de cette rémission de péché, ou on aura effectivement cette rémission de péché, puisqu'il est déjà accordé depuis le commencement. Hein? Mais qu'à la fin, quand? Mais quand notre Père originel reviendra au bercail. Donc s'il revient au bercail, s'il revient chez Dieu, c'est que Dieu l'a fait sauter. Vous voyez? Il l'a fait sauter quoi? Mais le péché originel. S'il a fait sauter le péché originel, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas faire sauter tous les autres péchés qui en découlent. Vous voyez? Bien, les bien-aimés. Vous voyez? Le péché originel, je voulais dire, c'est la base. C'est la porte. Si on fait sauter le péché originel, il n'y a pas de raison qu'on puisse garder les autres péchés. Faire sauter le péché originel, eh ben, c'est faire revenir Adam et Ève à leur lieu d'origine. Vous voyez, c'est tout. Si on fait revenir Adam et Ève à leur lieu d'origine, cela veut dire que l'humanité aussi doit revenir au lieu où leurs géniteurs ont été créés. C'est leur terre. Ils sont nés en exil, en dehors de cette terre. Et voyez-vous qu'ils doivent revenir sur cette terre. Bien aimés, je crois que j'ai essayé un peu de rappeler ce que nous avons dit la dernière fois concernant le péché originel. Donc ici, je vais récapituler ce que nous avons été un peu perturbés, voyez, tout à l'heure. C'est pour dire à mes bien-aimés ceci, que ça rentre une bonne fois pour toutes dans nos cœurs, dans nos esprits, que lorsqu'on parle de la rémission des péchés, c'est d'abord le péché originel. Il s'agit du péché originel d'abord. Donc ce péché-là doit être ôté. En notant le péché originel, eh bien on note tous les autres péchés, parce que tous les autres péchés en découlent. Le péché originel a ouvert la porte à toutes sortes de dérapage, vous voyez. Pour régler ce problème-là une bonne fois pour toutes, pour ôter le péché, les péchés, mais il faut ôter d'abord le péché originel. Autrement dit, il faut rétablir ceux qui ont été établis depuis l'éternité. Vous voyez ? Je vous ai parlé au commencement qu'Adam et Ève sont établis avant même qu'ils aient la chair. Ils ont commis le péché dans la chair, hein, chair. Parce qu'ils se sont fait chair, vous voyez. Mais n'oubliez pas qu'ils ont été nommés avant qu'ils soient chair. Donc leur nomination et dans l'éternité. Mais c'est d'ici, quand je parle de ça, les frères et sœurs ne comprennent pas. Vous voyez, hein? Voilà pourquoi vous vous embrouillez avec vos histoires de divinité, divinité, divinité. Non, il s'agit de l'éternité. Nous sommes établis depuis l'éternité. Oui, c'est ça. Et puis nous sommes venus dans la chair. Et c'est dans la chair que nous avons commis l'irréparable. Vous voyez? Et donc nous avons perdu la terre, notre héritage. Vous voyez? Nous sommes devenus des exilés, de souffrants. Parce que nous avons perdu la connexion avec d'abord la terre natale. Parce que Dieu a fait des choses sous, sous cette terre-là natale. Il a fait des choses. Vous voyez? Vous voyez ici, le maître en parle lorsqu'il parle de la visite des trois mondes. Où sont-ils les deux? Le Dieu créateur et le Gême. Où sont-ils? Vous voyez? Où Dieu vient le rencontrer? Et où ils ont pris les escaliers? Voyez-vous qu'ils sont descendus là? En bas là-bas, il y a des choses là-bas. Vous voyez? Donc nous sommes liés. Vous voyez? Ce qu'on appelle tout simplement... sur le plan physique, la pesanteur, vous voyez ? La pesanteur est une force, vous voyez ? Et c'est une forte force mystique, vous voyez ? Et chacun de nous doit être là. Enfin, comment je peux expliquer ça ? Je crois que vous me comprenez, mes bien-aimés. Et cette force physique est différente de lieu en lieu. Vous voyez ? On a essayé de donner une constante, hein ? À cette force-là, on dit 9,80, je ne sais pas quoi. Bon, ça c'est une constante, voyez-vous, qu'on essaie de matérialiser, voyez, cette force-là, on essaie de lui donner une intensité, vous voyez, une grandeur comme ça. Enfin, mais voyez-vous que c'est une force spirituelle, n'est-ce pas? Eh bien, qui nous lie avec les lois de l'éternel, oui. Donc, chacun de nous dans nos pays, sur nos terres, nous avons une force. Il y a d'abord une force qui nous maintient depuis le bas. C'est-à-dire que Dieu a mis des choses en bas. Oui, hein? Oui. Lorsque vous lisez le psaume de David, hein, il en parle. Il dit que Dieu nous a tissés dans les profondeurs de la terre. Il nous a tissés. Dans les profondeurs, donc en profondeur là-bas, il y a des choses que Dieu a réservées pour chaque nation. Chaque nation a une connexion particulière en bas là-bas de sa terre. Hein? Vous voyez pourquoi je vous ai dit qu'il y a une connexion, mais aussi une connexion en haut. Hein? C'est pour ça que je dis qu'on est mieux sur sa terre. Parce que la terre, on est lié à cette terre-là. Vous voyez? En bas. Et on est aussi lié depuis cette terre-là, mais en haut, sur l'éternel. Bref, c'est une façon de parler. Vous voyez, on aura le temps de parler de toutes ces choses-là, calmement. Hein? Pas pendant ces moments de tourment-là. Calmement, parce que les frères et sœurs s'inquiètent. Ah, on veut le voir. On veut voir. Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il... hein? Doucement, vous voyez? Malembe. On m'a pas demandé de faire ça. On m'a pas demandé d'aller de sous-section en sous-section. On m'a pas demandé de faire ce que vous voulez que je fasse. On m'a pas demandé ça. On m'a demandé d'assurer ce service. C'est ce que je fais. Hein? Et je fais ce service-là selon l'ordre des bâtiments de la cité. Donc moi, je peux pas... faire ce que vous voulez, hein? C'est vous qui voulez qu'on fasse des choses telles que vous le voulez. Mais non, on est des serviteurs de Dieu, on fait les choses telles que l'organisation nous demande de le faire. Bien, c'était encore une parenthèse. Alors pourquoi je dis toutes ces choses-là? Je dis toutes ces choses-là, mes bien-aimés, pour qu'ils comprennent d'abord où on va, pourquoi on prie. On prie pour aller où? Alors là, les réponses à ces questions-là sont diverses, hein. J'en dirais, on prie pour aller dans le paradis. Oui, c'est vrai. C'est quoi le paradis? Ah, là encore, c'est compliqué. D'autres imaginent un pays merveilleux où il y a des arbres flamboyants, je sais pas, où il y a des choses, hein, extraordinaires, il y a des fruits de toutes sortes. Oui, également, hein. Mais lorsqu'on leur demande, il est où ce paradis? Alors là, c'est une grande question. Ça, c'est difficile. Mais en fait, vous voyez, lorsque vous lisez dans la Genèse, c'est simple. Vous voyez bien que Dieu établit le paradis où? Ça commence par quoi? Mais le jardin d'Éden, oui. Et le jardin d'Éden est à part. C'est le paradis, ça. Ça, c'est le paradis. Et Dieu l'a mis où? Mais sur la terre. Donc, c'est une terre spéciale ici. Vous voyez? Que Dieu réserve et Dieu connecte cette terre au profond, enfin, avec les profondeurs de la terre. Vous voyez? Il y a une connexion, je vous ai parlé tout à l'heure de la pesanteur. Vous voyez? Donc Dieu établit une force ici, une puissance ici, si vous voulez, un pouvoir, si vous voulez, mais qui lie le jardin aux profondeurs, à la profondeur de la terre. Vous voyez? Hein? Bon, bref. Et Dieu établit Adam et Ève, donc c'est ça. Vous voyez que le paradis est lié à la terre. Hein? Dieu l'a lié à la terre. Il a mis des socles pour que le paradis soit sur la terre. Le paradis était sur la terre. Ça, c'est le passé. Hein? On dit le paradis était sur la terre. C'est le jardin d'Éden, le commencement. C'est simple, ça. Hein? Et il était où? Sur la terre, mais particulièrement un endroit réservé ici, voyez, que Dieu lui-même façonne, prépare. Voyez, comment on peut dire ça, voyez, pour Adam et Ève, vous voyez? Donc Dieu prépare une terre et Dieu met en bas de cette terre un pouvoir. Voyez, un pouvoir, n'est-ce pas, qui lie, mais ce qu'il va mettre sur la terre. Hein? Ah, ce pouvoir qui lie les hommes à la terre qu'il a façonnée. Il y a un pouvoir, hein, on appelle ça la pesanteur aujourd'hui, hein, un pouvoir qui les maintient dessus et qui fait que l'homme soit en harmonie avec sa terre, voyez? Que l'homme puisse manger les fruits de cette terre-là, hein, que les fruits qui sortent de cette terre soient pour lui une bénédiction. Donc, vous voyez, hein? Ce que Dieu établit, c'est pour ça que je vous ai dit, un peuple sans terre souffre parce qu'il est sur la terre des autres. Il n'y a pas de connexion réellement avec le pouvoir, hein, qui lie ce peuple-là à la terre. Donc, on ne peut jamais être libre, spirituellement parlant, en vogue, même étant dans les pays développés, comme étrangers, on souffre parce que ce n'est pas notre terre. Nous ne sommes pas liés à cette terre. C'est-à-dire que le pouvoir qui lie les habitants de la terre étrangère à leur terre, c'est un pouvoir que nous, qui n'agit pas. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas en tirer profit. Oui. Parce que c'est un pouvoir qui doit agir. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, donc c'est difficile, hein, l'exil, comme je vous ai dit la dernière fois. On reviendra sur ces thèmes-là. Bien, mais bien aimé, on va couper court, on a dit beaucoup de choses, et on va aller à l'essentiel maintenant. Et je vous ai posé la question en ce qui concerne le paradis, pourquoi on prie? On a dit que c'est pour le paradis, pour aller au paradis, oui, et le paradis, il est où? Alors sur cette question-là, il y a divergence, mais je vous ai répondu que le paradis était sur la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a perdu ce paradis. Tout au moins, Dieu a enlevé ce paradis, tout simplement. Parce que il y a eu l'intervention des anges des cieux. Et je ne vous ai pas dit la suite. Dieu a préservé le paradis sur la terre parce qu'il y avait le juste Énoch. Vous voyez? Et le juste Enoch, il a habité, hein? Il a été dedans. Dieu l'a enlevé, il l'avait mis dedans, dans ce paradis-là. Pour préserver ce paradis, Dieu avait besoin qu'il y ait un homme. Donc, notre père Enoch, Enoka, hein? Kenoka. a eu la chance de vivre dans ce paradis. C'est grâce à lui que ce paradis a été préservé du déluge et tout ça. Sinon, Dieu allait tout détruire. Donc, il nous a préservés. Hey, hein? Vous devez comprendre toutes ces choses, mes bien-aimés, pour ne pas vous faire avoir par les gens qui sont venus avec un autre évangile. Voilà pourquoi j'aime dire aujourd'hui que le jardin d'Éden est, donc le paradis est, où ? Au Congo Brazzaville, donc vous voyez bien sûr, sur la terre. Hein? Donc sur la terre, en question, qui a le paradis ? Il est où, ce paradis ? Au Congo Brazzaville. Ah ! Congo Brazzaville, c'est quoi ? C'est un pays, hein, qui est dans le continent africain. Un pays sur la terre noire. Bon, bref, je m'arrête là, hein, pour ne pas trop vous saturer, vous connaissez tout ça. Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, Kutora, vous connaissez. Télé, le Bacity, vous connaissez. Bien, maintenant après, c'est pas fini. Pourquoi on va, comment on appelle ça, pourquoi on prie? Pourquoi prions-nous? Et prier, c'est quoi? Une autre question. Prier, c'est établir ou rétablir la relation avec qui? Avec Dieu. Oui. On prie Dieu. Et qui est-il, ce Dieu? Voilà la question que vous devez vous poser à la veille de la rémission du péché. Ou pour votre évolution spirituelle. Qui est-il réellement, ce Dieu-là? Vous voyez, je vous ai expliqué depuis longtemps que ce Dieu-là, mais c'est un Père. Oui. Le Christ est venu nous montrer ce Dieu comme étant le Père. Il a dit que c'était le Père. Donc voyez-vous, un lien que nous avons, le lien que nous avons avec Dieu est filial. Donc c'est véritablement un Père qui est comme nous. Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Attention, bien comprendre ça. Hein? Mais bien sûr, Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Donc là, on commence à nous parler de Dieu comme étant un homme, avec grand H, mais pas un homme de chair, hein? Donc un homme. Donc nous sommes comme lui. Oui, mais pourquoi on le prie? Pourquoi il faut rétablir un lien avec lui? Parce que nous sommes très loin de lui. Parce que nous sommes éloignés de lui. Pourquoi nous avons été éloignés de lui? Parce qu'il y a eu quelque chose, hein? Divorce. Il s'est passé quelque chose. On en a parlé en long, en large. Donc, le péché originel. Il a fait quoi, ce péché originel? Il a tout simplement cassé la relation qu'on avait avec lui. Mais s'il est notre Père. Mais bien aimé. C'est qu'il y a un lien génétique avec lui. Voilà ce qui blesse. Les gens vont dire, oh, c'est un Dieu. Dieu, on le représente comme un être voilà, tarabiscoté, compliqué, et qui a des cornes, qui a des ailes, qui... Non, voyez-vous, lorsqu'il approche Adam, lorsqu'il vient parler à Adam, mais il est comme Adam. Il se met au même niveau que lui. Bon, même niveau, c'est une façon de parler. Il veut tout simplement avoir quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui l'enseigne, quelqu'un à qui il donne des secrets, quelqu'un à qui il apprend un boulot, il apprend un métier, quelqu'un à qui il lègue son entreprise. Voyez-vous ici. Donc on voit un lien de père et fils, ça, ici, que Dieu est avec nous. Ce lien a été cassé par le péché. Le péché a détruit ça. Nous sommes devenus comme des étrangers. Nous ne reconnaissons plus ce Dieu. Nous prions pour revenir, pour rétablir cette relation que nous avons avec lui. Vous voyez, premièrement, c'est ça. Hein? Donc, il est qui réellement? Je vous ai dit que par rapport à Adam et Ève, c'est leur père ici. Mais par rapport à nous, c'est notre grand-père. Vous voyez? C'est un retour vers le grand-père. Donc, on veut revenir chez le grand-père, chez qui nous avons notre héritage, chez qui nous avons nos maisons, nos terres, notre richesse, tout ce que vous voulez. C'est ça, c'est pourquoi on prie. C'est repartir vers le grand-père,
sur la terre natale. Et cette terre qui a été suscitée par le grand-père, travaillée par le grand-père, établie par le grand-père. Car là, il y a nos richesses, là, il y a nos trésors, là, il y a tout, il y a notre bonheur. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle, tout simplement. Donc, nous prions pour ça, pour ces choses-là. Mais où est-ce que notre grand-père a établi toutes ces choses-là? Mais c'est sur la terre. Et cette terre-là, elle est où? Mais nous l'avons perdue. Vous voyez? Et cette terre-là est auprès du grand-père. C'est le grand-père qui l'a. Vous voyez? Donc nous prions pour faire quoi? Pour revenir chez le grand-père. En revenant chez le grand-père, nous allons retrouver notre héritage. Retrouver nos maisons. Notre liberté. Notre dignité. Notre honneur. Vous voyez, ce pourquoi nous prions, c'est ça. Alors qui est-il ce grand-père? C'est celui qu'on appelle Dieu, tout simplement. S'il y a un grand-père, c'est que nous avons un père et une mère. C'est Adam et Ève. C'est simple, oui. Donc, commençons à les connaître. Oui. Comment on peut prier un Dieu qu'on ne connaît pas? Ou un Dieu qu'on confond? Comment on peut prier si on ne connaît pas notre père et notre mère? Puisque le but, la finalité de la prière, c'est revenir dans la famille. C'est revenir dans la famille. C'est ça. Nous prions pour revenir au père, on dit, le père ou le grand-père. Mais il faut qu'on connaisse ce grand-père. Vous voyez? Il faut le connaître. Mais avant de le connaître, d'aller aussi loin, connaissons d'abord notre père et notre mère, qui, eux, le connaissent. Parce que c'est seul à eux qu'il s'est présenté. Nous n'avons jamais vu le grand-père. Nous n'avons jamais vu Dieu. Sa relation avec nous s'est arrêtée dans le jardin, avec notre père et notre mère. Donc nous, pour connaître notre grand-père, nous devons connaître qui d'abord? Notre père et notre mère, voilà là où il y a le problème des religions. Mais si ils avaient compris le message du Christ, encore là on revient, hein? C'est ça que le maître dit, le Christ n'avait pas achevé sa mission. Pourquoi il ne le dit pas achevé? Parce qu'il reste les petits-fils. Et l'humanité, hein? Il reste l'humanité. L'humanité doit connaître son père et sa mère, ses géniteurs. C'est la mission qui reste. Donc, voyez? La première mission, celle que le Christ a faite, c'est laquelle? Je vous ai expliqué en long et en large que c'est ramener Adam et Ève chez le Père. Donc, ôter le péché originel, ça c'est la mission du Christ sur la terre. Ce pourquoi il est mort sur la croix et ressuscité, c'est pour ça. C'est d'abord le Père et la Mère, les deux personnes qui sont dans le jardin d'Éden. C'est les deux que le Christ descend. Il descend pour les chercher. C'est le maître qui le chante. Hein? Jésus t'a donné ta vie pour faire quoi? Pour venir nous chercher. Nous, c'est qui? C'est Adam et Ève. Donc, il parle de lui. Jésus t'a donné ta vie pour venir me chercher. Pour me faire revenir dans la maison du Père. Jésus, tu as donné ta vie pour aller nous chercher, afin de nous faire revenir dans la maison du Père, dont je vous ai parlé de la terre natale. C'est ça le premier but. C'est pourquoi le Christ est descendu. Alors lorsqu'il a fini ça, il a fait revenir le Père et la Mère au bercail. Maintenant il reste au Père et à la Mère d'aller chercher les enfants. C'est tout. C'est lorsque les enfants reconnaîtront leur père et leur mère, mais qu'ils verront Dieu. Parce que là, maintenant, le père et la mère vont les emmener vers le grand-père. C'est le père et la mère qui présenteront les enfants au grand-père. Oui. Quand il dit, l'humanité toute entière est sur mes épaules et sur ma tête. C'est moi qui la présenterai au dernier jour du Seigneur devant Jésus, devant Dieu. C'est clair. Qui va présenter l'humanité devant Jésus, devant Dieu? C'est Guy-Émile Fouassé-Touba. Bon, alors, qui est-il? Je viens de vous expliquer en long et en large ici que nous sommes une famille. Notre père et notre mère originelle, ils ont quitté la maison de leur père, leur terre natale, très tôt, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont commis le péché originel. Ils ont été expulsés. Ils nous ont mis au monde, au dehors, en exil. Voyez-vous ici? Loin du grand-père. Et donc, nous n'avons aucun souvenir, nous ne connaissons pas le grand-père. Nous sommes nés sur les terres étrangères, malmenés, bâillonnés, ligotés, oui. Mais voyez-vous que cette situation-là, Jésus vient régler cette situation. Mais comment il procède? Voyez, il va d'abord chercher les parents qui sont en exil. Il va les chercher, il va les ramener d'abord, mais sur leur terre natale. Donc il va faire table rase, péché originel, terminé. Mais lorsqu'il les ramène au bercail, c'est pas fini, oui. Le père et la mère, ils ont mis au monde des enfants qui sont mis en exil aussi, hein, qui sont dispersés. Donc, mais Dieu a eu des descendants, des petits-fils et des petites-filles. Donc Dieu a besoin d'eux aussi, parce qu'ils sont sortis d'eux. Mais de ses enfants, Adam et Ève. Donc vous voyez, premièrement, il fait quoi? Il fait revenir les parents. Il se réconcilie avec. Et alors, s'il a pardonné les parents, il pardonne aussi les enfants. Oui, oui, c'est la rémission du péché de la faim. C'est ça. Hein? C'est ça que le maître dit. Tous ceux qui ont commis des péchés les plus graves, l'avortement, s'ils oublient, là, il parle de qui? C'est vrai. Faites très attention. Hein? On ne parle pas de tous les hommes. Oui. Parce qu'au milieu de nous, il y a des hommes qui ne sont pas d'Adam. Ça, vous devez le savoir. Oui. Il y a des hommes qui sont d'Adam, des hommes et des femmes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a la postérité de la femme, ce sont les enfants d'Adam. Et la postérité du serpent qui ne sont pas les enfants d'Adam. Nous sommes tous mélangés là. Et c'est la postérité du serpent qui a le pouvoir actuellement. Vous voyez, qui domine le monde et qui écrase la postérité du serpent, de la femme, qui est Adam. La postérité d'Adam et Ève, oui. Et donc, lorsque le maître parle de tous ceux qui, les sorciers, les machins, mais il ne parle pas de la postérité de la femme, il parle de ces enfants qui ont été entraînés, de ces enfants qui sont otages de Satan, mais des siens, c'est-à-dire ceux qui ont ces gènes. Donc, il s'agit d'une famille, voyez-vous ici. Il faut distinguer, voyez, le bon grain de l'ivraie. Voyez, Jésus l'a dit, tout simplement. Il y a le bon grain et l'ivraie. Donc, il y a humanité et humanité, il y a homme et homme. Bien entendu, il y a femme et femme. Voyez, nous ne sommes pas tous pareils. Nous avons le même corps, nous nous voyons dans la rue, on se promène, on se croise, on se dit bonjour, tout ça. Mais nous ne sommes pas pareils à l'intérieur, parce qu'il y en a qui ont le gène du serpent. Ce sont les enfants du serpent. Il y en a qui ont les gènes, mais de la femme, c'est-à-dire d'Adam et Ève. Donc, par ricochet de Dieu. Vous voyez? Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez, bien-aimés. Et donc, si Dieu fait revenir notre père et notre mère sur la terre natale, eh bien, cela veut dire que nous aussi, qui sommes nés d'eux, nous allons venir. Cette terre natale, nous n'avons jamais connue. Et puis, nous avons une aventure brève aussi avec nos géniteurs, Adam et Ève. Vous voyez, vous connaissez l'histoire de Caïn, vous voyez, encore une autre famille qu'Adam et Ève veulent l'avoir sur la terre étrangère. Cette famille, Satan vient encore la diviser avec l'histoire de Caïn. Donc, nous sommes allés de division en division, de souffrance en souffrance. Voyez-vous, c'est à tel point que nous sommes perdus. Donc pour régler cette affaire-là, vous êtes d'accord avec moi, il faut faire revenir le père et la mère au bercail. Une fois que le père et la mère sont là au bercail, eh bien, on donne la mission au père et à la mère d'aller chercher leurs enfants. C'est seuls eux qui connaissent leurs enfants. Oui ou non? Oui. Donc ils les reconnaîtront dans le monde par un code génétique, si vous voulez. Hein? Ils reconnaîtront leurs enfants. Donc il y en a ceux qui sont en état de grâce. Il y en a ceux qui sont en état de péché mortel. Voilà, mes bien-aimés, ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu sur la rémission de péché. Donc ne perdez pas de vue que lorsqu'on parle de la rémission de péché, c'est ça. Vous voyez ? Et la rémission de péché que nous avons eue en 2007, c'est une confirmation de l'Éternel qu'il a définitivement ôté le péché originel. Donc la personne qui est là, oui, ou les personnes qui sont là à cette grande fête-là, ce sont ceux qui nous ont précédés. Donc il a remis les péchés de l'humanité à tous ceux qui nous ont précédés depuis Adam jusqu'au Christ. Et encore, ouais. Les péchés ont été remis. C'est-à-dire rémission des péchés. En vue, alors n'oubliez pas, en vue d'une longue vie sur la terre. Mais il s'agit de ça. Je vous ai parlé, le paradis est sur la terre. Longue vie sur la terre veut dire vie éternelle. Hein? Vie éternelle. Par degré. Et par degré. Tac, 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 tac. Voilà. Vous me direz, mais oui, mais la dernière fois, tu nous as dit que le Christ va apparaître dans les cieux, il va descendre. Oui, 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 oui. Hein? Oui, 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 oui. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Vous voyez, nous sommes là pour en parler. Vous voyez, selon. Vous voyez, mais vous voyez, et je l'ai dit, je l'ai répété, je ne sais pas si les gens ont capté vers la fin, je vous ai bien dit qu'il est déjà apparu. Le 10 juillet 2005, à 20h45. À qui? À Guy Emile. Qui est-il? Oui. Donc, Guy Emile, si vous savez que c'est lui qui est celui qui représente l'humanité tout entière, donc le Christ est déjà apparu. À l'humanité tout entière. Oui. Je vous ai dit qu'on lui a déjà tout donné. Les tout, les tout. La nouvelle Jérusalem descendue des cieux. C'est l'humanité qui devait voir ça descendre du ciel. Là, c'est descendu. Qui était là? La personne témoin qui a vu la nouvelle Jérusalem descendre des cieux. C'est Guy Emile. Donc, il représente qui? Mais l'humanité toute entière. Et encore, vous voyez? Dieu a déjà tout donné à celui qui représente l'humanité toute entière. C'est pour qui il a donné? Pourquoi il a donné à ce père-là? Et parce que c'est le père. Oh! En contrepartie, si vous voulez, c'est le père qui doit donner à ses enfants. C'est-à-dire, cet héritage que Dieu donne au père, c'est un héritage qui nous revient. Donc, longtemps à l'avance, il fait tout avec notre père. Il règle tout avec lui. Tout est déjà accordé. Tout est ici sur cette terre. Mais il ne reste que ce qui est invisible soit visible. Voilà pourquoi on parle de cette apparition. Lorsque je vous parle de l'apparition du Seigneur, c'est que les choses qui sont invisibles deviennent visibles, tout simplement. Mais ces choses sont sur la terre. Le Seigneur est sur la terre. Bon, c'est compliqué, hein? Bon, c'est compliqué. Bon, je ne vais pas trop vous saturer avec ça. Bien. Mes bien-aimés, connaissant toutes ces choses-là, alors attends-nous, hein, sortant des dogmes hein, ou ce que les gens racontent. Voyez-vous que nullement Guy Emile peut être le créateur de l'univers. Non, puisque le créateur de l'univers, Dieu, le créateur, il est venu que quand nous étions dans le jardin d'Éden. Donc il n'y avait que deux personnes. Et depuis, il est parti. Hein? Nous ne pouvons pas le voir, donc il ne peut pas venir au milieu de nous. C'est faux, c'est archi faux. Hein? Le créateur de l'univers, je répète, ne peut pas venir au milieu de nous, s'incarner... comme les gens disent, hein? Non, Jésus, c'est une exception. Et je vous ai dit, c'est qui Jésus? Là encore, les gens, ils tâtonnent. C'est une exception, oui. Et cette exception-là, elle est faite parce qu'il n'y a personne pour sauver l'humanité. Donc c'est pour ça qu'il y a cette exception. Et Dieu l'a promis depuis le commencement qu'il viendra lui-même. Il a promis à Adam que c'est moi-même qui viendrai te chercher. Et quand je vais te chercher, je te rétablirai. Et c'est toi qui prendras l'affaire pour le reste des choses. C'est comme ça. Donc Dieu, le créateur de l'univers, Pungutulendo, mais il est parti depuis. Oui, le jardin d'Éden, c'était fini. C'était lui, son objectif, c'était avoir sa famille. La famille était brisée, cassée par Satan. Mais Dieu est parti. Vous voyez qu'il est revenu là. Quand le maître vous parle de Dieu le Père, il fait bien la distinction. Il dit Dieu le Père était devant et Jésus était derrière. Donc vous voyez bien deux personnes distinctes, le Dieu le Père et Jésus. Ce sont deux personnes bien distinctes, même s'ils sont égales en puissance. C'est deux personnes bien distinctes. Bon, bref, je vais vous saouler avec... parce que si les frères et sœurs ne comprennent pas ces choses-là, ça veut dire qu'ils sont dans les ténèbres les plus épaisses. C'est difficile. Parce que ces choses-là, ça doit vous parler dans votre âme. Si votre âme est éclairée, ces choses-là, vous les verrez évidentes. Vous paraissent évidentes. Mais si ces choses-là ne vous paraissent pas évidentes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou soit vous êtes d'Adam, enfant d'Adam, ou soit vous ne l'êtes pas. Mais on ne peut rien faire pour vous. Si vous êtes enfant du serpent, on n'y peut rien. Vous voyez ? C'est votre gène à l'intérieur de vous. Vous êtes progéniture du serpent, on ne peut rien. On peut être de la même famille, mais être... On peut être de la même famille, hein, je voulais dire. Et être... soit d'Adam, soit du serpent. Donc parmi nous, il y a des enfants d'Adam et Ève. Dans une famille, si vous êtes par exemple 10, il y a peut-être deux seulement qui sont d'Adam et Ève, véritablement. Et vous le verrez par leur comportement, par leur façon de faire. Vous dites, mais ceux-là, ils sont différents des 8 autres. Comment ça se fait? Les autres, c'est des brigands, les autres, c'est des ambianceurs, les autres, je ne sais pas, hein. C'est un exemple que je prends comme ça. Mais oui, qu'il y en a deux là qui sont... Oui, même dans l'histoire, vous voyez, des enfants d'Israël, lorsque Dieu voulait élire le roi David, vous voyez qu'il a envoyé Samuel. Samuel a été voir les enfants de... Bon, on parle de Jessé, d'autres... Bon, bref, le père du roi David. Et Samuel cherchait un vaillant là, un mec bien bâti, quoi, hein, bien baraqué, imposant, là, et tout. Il cherchait, il a dit, c'est celui-là. L'Éternel lui disait, non. Ah, c'est celui-là-bas. Ah, mais non, non, non. Là, c'est celui-là-bas. Ah, mais non, non, non. Ah, mais il n'y en a plus, là. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, là? Ah, mais oui, mais il y en a un flemmard, là. Un gars, là. un petit, là, un flemmard, là. Il est quelque part, là-bas, là. Il dit, mais allez-y me le chercher, là. Il arrive, il voit le gars, il dit, mais c'est un flemmard, il n'y a rien là. C'est lui là. L'Éternel dit, oui, c'est lui que je veux, c'est lui. Voilà, hein, le bien. C'est une façon de vous parler. Pourquoi l'Éternel a choisi cette âme là, spécialement? Vous voyez, il n'y a rien de particulier. Hey. Mais c'est parce que dedans là, il y a quelque chose de lui. C'est son fils digne, hein. Il a ses gènes à 90% pour 100, si vous voulez. Hein? Bon, c'est pas possible, mais bon, on va dire ça. Oui? C'est lui là. Lui, je peux être dedans sans problème. Je vis en lui, donc c'est lui que tu vas prendre. Je vois que Samuel, il était un peu gêné. Et puis, il est tout petit là, machin. C'est lui, c'est moi qui décide, l'Éternel. Voyez-vous, mes bien-aimés? C'est ce que je voulais vous dire. Hein? Non, vous n'êtes pas. C'est pas toute votre famille qui va aller au ciel, comme on dit au ciel, qui va rentrer dans le paradis. Vous perdez votre temps, hein? C'est vrai qu'il faut se battre pour que toute la famille ait la vie éternelle. Mais voyez-vous qu'à la fin, ça ne sera pas le cas. La parole de Dieu le dit. Oui, le père va combattre son fils, le fils va combattre son père, la fille va combattre sa mère. Il y aura division dans la famille. Pourquoi? C'est à cause de ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, connaissant ça, les enfants, les vrais enfants de Dieu, je sais que vous êtes divisés aujourd'hui. Hein? Vous voyez que le corps du Christ va être coupé en quatre parties. Il y aura quatre portes, les quatre points cardinaux, n'est-ce pas? Donc les ennemis vont l'entourer et ils rentreront par quatre portes pour détruire le corps du Seigneur. Oui? C'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit bien les quatre portes. Hein? Est-ce qu'on a encore le temps pour que je puisse en parler correctement aujourd'hui? Bon, on est à 1h05 déjà de prédication, c'est beaucoup, hein? Bon, je vais en parler quand même, hein. Vous voyez les quatre portes, ce sont les quatre tendances que vous voyez au sein de la SLA, là, actuellement, là. C'est les quatre tendances, hein. Bon, je ne vais pas vous les citer, vous connaissez, hein. Bon, je cite quand même, parce qu'il faut dire les choses. Vous avez la tendance Ararat. Vous avez la tendance hiérarchie. Bon, vous avez une autre tendance, on va appeler ça Mvungu, ou je ne sais pas quoi, là, hein. Et vous avez une autre tendance, celle-là qui a une connexion avec l'étranger. Eh? On va appeler ça Lévi. Hein? Tendance Lévi. Bon, on va appeler par les noms peut-être. On va prendre tendance Lévi, tendance DP, tendance Charles, tendance, je ne sais pas, on va dire Guy Marin, comme ça, ou bon voilà, quelqu'un de Mvungu. Vous voyez les quatre portes. Des fois, les sœurs se demandent, mais c'est écrit où? Quand le j'aime vous dit que vous ne faites pas attention à mes enseignements, pourquoi acceptez-vous qu'on vous mente tout le temps? C'est le j'aime qui le dit. Ma note circulaire, quelle est Mutsonika comme note. Ça déjà vu. Les notes circulaires existent, j'avais écrit les notes. Mais pourquoi vous vous laissez aussi facilement écraser? Oui. Dominé et trempé, séduit et abusé. Vous voyez que les quatre portes là qui sont prédites sont là, on les voit. Vous voyez? On est tranquille parce que c'est dit que vous verrez quatre portes par lesquelles Satan va rentrer pour détruire le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est la SLA OPH. On dit que c'est l'habit de l'OPH. L'OPH, c'est qui? C'est Jésus, on le sait aujourd'hui. Vous voyez? Pour eux, l'OPH, c'est qui pour eux? Voyez-vous, pour eux, l'OPH, c'est qui? C'est Guy Émile. Vous voyez déjà une grosse erreur. C'est là où vous saurez qu'ils font partie de l'ennemi qui vient pour détruire. Et l'ennemi viendra par quatre chemins, quatre portes. Et les quatre portes sont là. Mais il y a une qui va être la principale. Elle va grandir. Elle va avaler, finira par avaler les autres quatre. Enfin, comment l'ennemi va faire? Bon, je ne vais pas dévoiler ces plans, hein? Je garde ça pour moi. Mais je vous ai expliqué, vous voyez, par les quatre portes. Et à la fin, il n'en restera qu'une, vous voyez, une grande porte, vous voyez, où cette grande porte va en quelque sorte avaler les autres trois. C'est-à-dire que l'ennemi va rentrer par les quatre portes, vous voyez, et pour atteindre le cœur, le centre du corps du Christ. Et une fois qu'il va arriver au centre du corps du Christ, mais il va tuer ce corps-là. Vous voyez? Il va l'achever, n'est-ce pas? Et avant de l'achever complètement, il va avaler les trois autres portes. Vous voyez? En fait, il va les fusionner tout simplement. Mais personne ne saura. Hein? C'est tellement subtil. C'est-à-dire que les trois autres portes vont disparaître pour laisser place à une seule. Ce sera un boulevard. Par lequel, eh ben, l'ennemi va achever le corps du Christ. Oui, la SLA OPH sera achevée par ce grand boulevard qui va s'ouvrir. Et ça sera le boulevard qui permettra aux esprits mauvais, les esprits des ténèbres, les esprits des enfers, d'en découdre. Donc vous voyez qu'ils vont tuer le corps. Donc c'est une situation qui doit arriver. C'est la situation que vous voyez là. Hein? Les gens crient victoire, 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 victoire. Milolo, milolo. Nous, on sait où ils sont arrivés lorsqu'on ouvre nos notre livre de vie, là. On va, ils sont là. Bon, la prochaine étape, c'est là. On sait. Donc, on les a à l'œil. Hein? C'est pour ça que le maître disait que il a connu le coma de 3 ans et demi. Tiens, c'est ça. Hein? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Sans assistance médicale. Mais c'est la situation que nous sommes en train de vivre. Sans assistance médicale. 3 ans et demi. C'est-à-dire que l'association qu'il va conduire, lui, Émile, va être tuée à la fin. Vous voyez ? Pendant 3 ans et demi, l'ASLA va être par terre. Mais là, je vous explique ce qu'il veut dire. Vous voyez ? Vous ne comprenez pas les métaphores. Par terre. Mais attention, il y aura des fidèles qui vont veiller. C'est-à-dire des gens qui vont prendre en main cette association-là. Le cadavre, tout au moins. Qui vont l'entretenir, qui vont le garder chez eux. Donc, il y aura les vrais lousolifiés qui seront au courant de ce qui se passe et qui avertiront les uns et les autres de la situation dans laquelle nous sommes. Et ceux-là, ils garderont l'enseignement. C'est pour ça qu'il dit qu'il y avait qu'une altère qui faisait ting, 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 le sang qui circulait. Mais pourtant, papa fidèle, voilà, les fidèles adorateurs. Papa fidèle pouvait dire, mais papa Émile est mort. Bon, et je m'en débarrasse. Mais il a gardé ce corps. Donc, ni la famille paternelle, côté paternel, ni le côté maternel ne se souciaient. Ceux du côté paternel croyaient qu'Émile était chez papa, chez maman. Ceux du côté maternel, vice-versa. Dieu s'est arrangé pour que pendant 3 ans et demi, cette situation-là se passe. C'est la même situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça veut dire que la situation va tomber. Ils vont le tuer. Ils vont la tuer par 4 entrées, 4 portes. Les 3 autres portes vont disparaître d'elles-mêmes. Elles seront fusionnées. Il va rester une seule porte. C'est ce que vous voyez là, 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 là. Hein? Une seule porte. Et les gens vont applaudir. Ah là 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 là. Et ça veut... Vous allez voir qu'à la fin, c'est par cette porte-là qu'ils vont achever directement. L'usolo ne va plus exister. C'est ce qu'on appelle la mort. Vous voyez? Coma, mort. Bon, elle ne va pas mourir, mais elle sera dans le coma. Vous voyez? Sans assistance médicale. Oui, les gens vont fêter. Je vais vous parler de ça autrement. Vous voyez? Oui, lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous voyez qu'on fait mention du Seigneur de toute la terre. Et encore là, les gens, ils disent, non, mais le Seigneur de toute la terre, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ, etc. Bon, mais c'est parce que vous ne connaissez pas la vraie Bible. La Bible oubliée. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a écrit la Bible oubliée. Je vous donnerai les références. Vous allez chercher. Vous voyez que dans cette Bible-là, la vraie Bible, celui qu'on appelle Seigneur de toute la terre, c'est Adam qui est établi. Donc dans Genèse, là, on devait lire ça. Dieu a établi Adam, Seigneur de toute la terre. Ça veut dire quoi? Chef de la terre. La terre visible et invisible, Dieu l'a établi comme chef. Voilà pourquoi son péché, qu'on appelle le péché originel, a impacté tout, a détruit tout. Parce qu'il n'était pas n'importe qui, il était lié physiquement et spirituellement à cette terre. Vous voyez? Sa chute a entraîné la chute de la création. Donc, il est seigneur de toute la terre. Depuis le commencement, c'est Adam. Et dans l'Apocalypse 11, on cite seigneur de toute la terre ou seigneur de la terre. C'est le chef de la terre. Donc, il va être rétabli à la fin, puisqu'on le voit dans l'Apocalypse. Donc, il va être là. Celui qui dit que Dieu m'a établi pour régner de l'éternité en éternité, ça veut dire qu'il est le Seigneur de toute la terre. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc, lorsqu'il dit Dieu m'a établi de l'éternité en éternité, on sait que c'est le Seigneur de la terre. Et celui qui a lu la Bible, la vraie Bible oubliée, il sait c'est qui le Seigneur de toute la terre. C'est Adam. Point. Pourquoi voulez-vous qu'il vous le dise? Hein? Il vous a dit sous plusieurs formes que je suis le seul à être façonné comme je le suis, sur la terre entière, jusqu'à l'extrémité. Donc on sait que Dieu a façonné une personne de l'histoire que je viens de vous raconter. Hein? C'est Adam. Et je dis, Dieu vient me voir en personne, mais on sait que c'est la seule personne dans la Bible qui a vu Dieu. Je viens de vous en parler, en l'air en large. Et que sa relation avec Dieu, lorsque sa relation a cessé avec Dieu, Dieu n'est plus revenu sur la terre. Dieu était parti. Mais c'est Adam. Et Dieu ne reviendra sur la terre que si Adam est là. Si Adam est réhabilité, si Adam revient, alors Dieu va revenir. Donc le 30 novembre 2003, là, lorsque le maître nous parle de la visite des trois mondes, mais c'est avec ce Dieu-là, il dit quoi? Il m'a tout enseigné. Mais quand même, bien-aimé, même si vous êtes aveugle, Dieu enseignait à qui? À qui il a enseigné dans la Bible? Lisez! C'est à qui il montrait les choses? C'est Adam. Bon, mais même si on a une mauvaise foi, je ne sais pas. Il vous dit bien que ce Dieu-là m'a salué, il m'a dit, va en paix. Il y a bien un Dieu là qui lui donne quoi? Le bâton de commandement. Mais quand même. Maintenant, depuis quand Émile est devenu ce Dieu-là? Même vous-même, là, quand même, mais acceptez. Les frères et sœurs, ils n'ont plus le moral actuellement, là. Ils disent, oh, c'est pas possible, on ne sait plus comment ça. Mais laissez, je vais vous expliquer, hein, ce qui va se passer. C'était écrit que ça devait être comme ça, c'est-à-dire la postérité du serpent. Voyez-vous ici. Il y aura la postérité du serpent et la postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est l'association, le zolo, c'est-à-dire l'humanité tout entière. Mais qui vient d'Adam? L'humanité qui vient d'Adam, c'est celle-là qu'on appelle l'association, le zolo, amour. Point. C'est l'humanité qui vient d'Adam et Ève. Elle est différente, ce qu'on appelle les vrais enfants de Dieu. Qu'il adore en esprit en vérité. C'est la cela. La cela, ce n'est pas tout le monde, même s'il y a des gens qui sont là en marinière. Mais tous, ils ne sont pas de la cela. Vous les voyez en train de faire là. Vous voyez, hein? Ils ne sont pas de la cela parce que dans la cela vont venir la postérité. Mais du serpent, il viendra attaquer la postérité de la femme à domicile. Donc, ils vont rentrer dans le zolo et prendre les postes de responsabilité et vous commander, vous faire croire qu'ils sont des enfants d'eux. Mais d'Adam, alors qu'ils écoutent et suivent les ordres de leur père qui est le serpent. Ils sont véritablement la race de vipère dont a parlé Jean-Baptiste. C'est celle-là qui va venir entrer à l'Ozolo et prendre les postes de responsabilité. Et c'est par eux que le serpent va rentrer dans l'Ozolo et tuer. L'Apocalypse 11, oui. On vous parle des deux témoins de l'Apocalypse. Les deux témoins, c'est la cela. Hein? Les deux témoins de l'Apocalypse, c'est la cela. C'est symboliquement Enoch, je viens de vous en parler. Et Élie. Enoch et Élie représentent qui ici? Mais les enfants d'Adam. Oui. De l'ancienne et de la nouvelle alliance. Donc, l'ensemble de tous ceux qui ont suivi Enoch et l'ensemble de tous ceux qui ont suivi Élie. Et si vous les mettez ensemble, ce sont les enfants d'Adam et Ève. Point. C'est les prophètes et les patriarches. Tout ce monde-là. Vous voyez, les véritables enfants de Dieu, ce sont eux qui sont les deux témoins de l'Apocalypse. Deux. Symétrie. Vous voyez? Parfait. Donc c'est l'ensemble du peuple de Dieu, à la fin, c'est leur situation. Quand on parle de deux témoins, c'est l'ensemble des enfants de Dieu, de la fin. Ils se tiennent en face de qui? De leur Père ici, qui est le Seigneur de toute la terre. C'est ce que je viens d'expliquer là. Vous voyez? Là, je vous parle, je suis rentré dans l'Apocalypse, dans la Bible, pour que vous puissiez suivre. Vous voyez? Et je vous donne un plus. Ils se tiennent en face de qui? Devant qui? Mais leur père. Donc on voit bien le président fondateur et les associés. Et ses enfants. Que lui-même connaît. Il les connaît tout ça. Parce qu'ils se tiennent devant lui. Donc il les connaît. Il connaît les vrais losolifiés un à un. Il les connaît bien. Là où il est. Donc il les voit. Ils sont en face de lui, se tiennent en face de lui. Donc, il est le père, il connaît ses enfants. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez? Vous voyez que nous allons propager les vérités divines de l'heure. C'est ça, ce qui est raconté dans Apocalypse 11. Ce sont les vérités divines de l'heure qui sont à l'origine de ce que nous subissons aujourd'hui. Je prends un exemple. Lorsqu'on dit Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Ça, c'est une vérité qui nous fait souffrir aujourd'hui. Parce que vous voyez que la fausseté a fait que, mais Dieu n'est plus noir. On a effacé tout ça de nos mémoires. Vous voyez? À cause de quoi? Oui, de l'exil. L'exil que nous avons connu, nous avons été malmenés par les autres peuples, nous avons été piétinés, nous avons... Hein? Et on nous a effacé, enlevé de la tête le souvenir de notre père originel d'abord et de notre mère originelle. On nous a appris à les insulter, à les vilipender, à les accuser de tout. Voyez, quand vous êtes en famille, la pire des choses, c'est quand vous reniez votre père et votre mère. Quand vous parlez du mal d'eux aux autres, voyez, c'est que vous vous faites mal à vous-même. Voyez, les autres se moquent de vous. Voyez, c'est la situation dans laquelle Satan nous a mis. En se servant d'autres nations, il a entraîné ces nations-là mais à nous pousser, à insulter nos géniteurs. Voyez-vous, c'est une situation difficile que nous connaissons. Depuis la nuit des temps, vous voyez? Or, si nous connaissions notre père et notre mère, si nous avions de l'estime pour eux, s'ils étaient vraiment dans notre cœur, je crois que la situation ne serait pas pareille aujourd'hui. Vous voyez? Vous me comprenez, mes bien-aimés? Donc, vous voyez, le fait d'avoir dit que Dieu est noir et Jésus-Christ est africain, mais les autres nations savent, dans Satan, que c'est là le début de l'éveil de ce peuple. Ce peuple va être éveillé si ce peuple-là connaît son histoire. Il revient à sa mère et son père. Est-ce que vous comprenez? La peur de Satan, c'est que la postérité de la femme soit rétablie. Elle l'a divisée. Satan l'a divisée exprès pour qu'on ne se reconnaisse pas. Vous voyez? Pour qu'on ne soit pas unis autour d'une femme. Voilà encore. Ce qu'on parle de la postérité de la femme. Hein? Bon, dans d'autres versions, c'est la postérité d'Adam et Ève. Hein? Là, on dit la postérité de la femme. Oui, parce que la femme ici a une importance. On va expliquer aussi. Bon, on accepte. Hein? On accepte les deux traditions. Mais qu'à ça le tienne. Là, maintenant, on est plus là-bas. Hein? Là, on est à la fin, vous voyez? La lumière est descendue au mont Carré-Carré. Tous les privilèges, tous les trésors. Croyez-vous que le monde est d'accord? Croyez-vous que les autres nations sont contentes de cette situation? Je ne crois pas. Vous voyez? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, Satan va donc entraîner ces nations-là. Vous voyez? Il va donc les pousser à détruire, quoi. Les bactéries de Macide. Vous voyez? À détruire cette association. Il s'agit, comprenez bien, qu'à la fin, je répète encore, ceux qui vont diriger les nations, ce sont les enfants de Satan. Ils seront à la tête de toutes les nations. Ce qu'on appelle la postérité du serpent. Ils seront à la tête des nations. Ce sont eux qui dirigent. Vous voyez bien comment ils dirigent les pays. Vous voyez bien la situation dans laquelle vous êtes. Eh bien, ceux qui dirigent le pays, ce sont les enfants de Satan. Et quel est leur but? Pourquoi ils sont là? Eh bien, ils sont là pour détruire les enfants de Dieu. Donc, c'est cette fameuse postérité du serpent, les enfants de Satan, qui vont détruire la postérité de la femme de la Genèse. La postérité du serpent et la postérité de la femme. Il y aura une inimitié. Je mettrai. Et ici, c'est dit, c'est écrit. Donc, c'est la situation dans la fin. Mais ils vont étouffer ces vérités. Ces vérités vont leur faire mal. Parce que ces vérités vont faire tomber les forteresses. Ces vérités-là vont détruire le mensonge qu'on a. Et toutes les religions vont tomber. Vous voyez que les religions aussi, à la fin, vous comprenez que c'est une histoire de... Ah, je ne vais pas dire, mais vous savez. Hein? Trouvez-vous-même. Et donc, il faut contrer cela. C'est ce que explique l'Apocalypse 11, mais je vous en parle simplement. Vous voyez, hein? Et alors, l'ange qui monte de l'abîme, c'est-à-dire lui-même le serpent, il viendra alors. Et il va tuer l'association de Zoloamour. C'est-à-dire, il va tuer les deux témoins. L'ange qui monte de l'abîme, le serpent, viendra tuer les... Mais comment il fera pour tuer les deux témoins? Mais il faut qu'il rentre au milieu des deux témoins. C'est ce qu'on dit à Jean, écoute, compte d'abord ceux qui servent dans le temple. Ce sont les dignes enfants d'Adam. Vous voyez? Mais ceux qui sont dans le parvis extérieur, là, laisse-les d'abord. Il foulera aux pieds. Vous voyez? Voyez-vous ici, donc vous voyez une situation à la fin d'abord des gens qui sont des véritables enfants de Dieu, qui sont à l'écart. C'est ceux-là qui sont dans le temple, voyez, qui servent dans le temple. Et il y a des enfants de Dieu qui sont distraits encore, qui sont au milieu des païens, enfin des enfants de Satan. Voyez, il dit à Jean, laisse-les. Voyez, hein, ça, on va voir cette situation après. Mais compte d'abord les vrais. Hein? Il est vrai, là, ce sont mes deux témoins qui se tiennent. Oui? C'est la vraie Luzolo, la vraie Luzolo spirituelle, parce que Luzolo est spirituel, vous voyez? Ce n'est pas ces histoires qu'on voit là. Hein? Sa représentation sur la terre, c'est-à-dire les quelques frères et sœurs qui vont garder la vraie Luzolo, ils vont être tués. Hein? Tout au moins. Bon, ils vont pas nous tuer. Ils vont tuer l'association. Ils vont tuer l'association. Oui. Ils ont commencé ici à Paris. Vous avez vu, hein? Ce que Monsieur Boutindi a fait, hein? On vous a longtemps, depuis longtemps averti de ce qui va arriver. Ah, oh, toi c'est qui? Papa Boutindi. C'est le maître qui l'a nommé. Papa Boutindi. Ah. Jusqu'à le déir, enfin, le rendre Dieu, quoi. Il boutine. Ah! Maintenant, expliquez-nous ce qui se passe là. Là, vous êtes devant les tribunaux, là. Vous trouvez ça quelque chose de normal, ça? Les gens sont devant les tribunaux. Ça ne vous dit rien. Luzolo est par terre. Ils ont pris l'argent, je ne sais pas quoi. C'est mort, oui? Et c'est pas fini. La suite, c'est quoi? Donc, ça, c'est une porte, oui? Parmi les quatre. Le début, hein? C'est sympa, il s'agit de l'étranger, ça. Et alors, après, ce que vous voyez là, hein, division. Vous croyez que c'est fait au hasard, quoi? C'est, non, c'est calculé tout ça. Ah, c'est papa d'épée qui, comment on appelle ça, qui suspend papa Charles. Ah là, c'est parti, très vite là. Ta-ta-ta-ta-ta. Ararat, mais non. Hiérarchie. Mvungu. À une vitesse exponentielle. Et ça ne vous dit rien. Vous croyez que c'est normal, mais non. C'est ça l'Apocalypse 11 devant vos yeux. Et alors, ils ont préparé le chemin de qui? Mais de l'ange qui monte de l'abîme. Qui viendra alors finaliser le boulot, c'est-à-dire mettre à terre l'association. Et c'est ce que vous voyez là. Vous voyez, votre association est devenue une association cultuelle. Personne n'a fait attention. Cultuelle. Ah! Vous savez ce que ça veut dire, une association cultuelle? Hein? Une association qui est dirigée, orientée, canalisée, soutenue par le Christ, est devenue une cultuelle. Mais le culte rendu à qui? À qui? On va vous dire à Guillaume le fois, c'est quoi? Voilà une abomination devant vos yeux. La finalité, c'est quoi là-dedans? C'est la mort de deux témoins. L'association est finie. Ils l'ont détruite, elle est par terre. Et du moins, elle n'existe plus. Voilà la mort. C'est prophétisé. C'est douloureux, c'est triste. Mais c'est un message de joie pour nous. Car nous connaissons la suite. La suite, vous avez dans l'Apocalypse, je vais aller plus vite, c'est que l'Esprit de Dieu, pendant 3 jours et demi, oui, C'est ce que, la situation que vous voyez là. Hein? Ben, nous sommes dans les 3 ans et demi. Hein? C'était la moitié d'une semaine. C'est selon Dieu, hein? Là encore, les gens vont compter. Mais depuis 2010, on nous dit 3 ans et demi. Mais oui, depuis 4000 ans, je ne sais pas combien, 3000 ans, Isaïe a parlé, hein? Des situations d'aujourd'hui. Les apôtres, depuis 2000 ans, ils ont dit ce qui va se passer aujourd'hui. Mais ils disaient quoi? Répentez-vous. Ils parlaient toujours du présent. Parce que Dieu est éternellement présent, vivant. C'est nous qui mourons. Dieu est toujours vivant. Donc, chez Dieu, tout est d'actualité. Chez Dieu, tout est prêt. S'il veut la fin aujourd'hui, ça sera aujourd'hui. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a pas de temps. Il est éternel. Oui. Chez Dieu, tout est présent. Tout est au présent, je veux dire. Parce qu'il est éternellement vivant. Donc là, ces signes ici nous montrent que nous sommes dans les 3 ans et demi. Ces 3 ans et demi-là vont durer plus ou moins, selon notre capacité à rebondir ou à comprendre. Si nous comprenons ce que je suis en train de dire, si la majorité comprend, ça va aller très vite la fin. Et la fin, c'est laquelle? Je vous ai dit tout à l'heure. C'est que pendant 3 ans et demi, ils vont tuer l'association. Donc vous avez vu là, hein? Ça a commencé là. Ça a commencé où? À Paris. Hein? À Paris, où le maître dit que vous allez implanter le symbole de la paix de l'humanité toute entière. Symbole de la paix de l'humanité toute entière. C'est là où ils ont commencé à casser l'Ouzolo. Vous comprenez comment ils fonctionnent, les enfants de Satan, qui sont nos responsables. Ils ont commencé où? Mais à Paris. Ils ont fermé la section, c'est fini. Maintenant, les gens sont divisés. Oh, voilà. On dit, mais pourquoi ils ont fermé la section? Oh, parce qu'il y a une division. Mais non! Et après, c'est parti très vite. Hein. Et les morts à Ararat, je ne sais pas quoi, il y a hiérarchie, je ne sais pas quoi, Mvungu, tout ça là. Les 4 portes se sont mises là. Ta-ta-ta-ta. La finalité de ces 4 portes, c'est quoi? C'est faire rentrer les esprits mauvais. Hein? Pourquoi les esprits mauvais prennent possession des frères et sœurs? Donc les esprits mauvais vont rentrer, etc. Les esprits de la séduction, les esprits du mensonge, les esprits de la rébellion, de la division, tout ça, ça va rentrer. Une fois que c'est rentré, vous voyez, Satan va donc fusionner. Il va faire disparaître les 3 autres pour laisser qu'une seule entrée. Et cette seule entrée, il va tellement l'agrandir qu'il va rentrer lui-même avec ses légions d'enfer. Donc il rentrera par ce canal-là, par cette grande porte qui va rester. Et puis pour achever une bonne fois pour toutes là, cela. C'est ça que vous voyez là. Hein? On crie victoire, victoire. Votre victoire sera d'une courte durée. Hein? Parce que vous allez maintenant découvrir celui à qui vous avez confié l'association. Vous allez découvrir qui est-il réellement. Et il vous a promis des choses. Vous allez voir ce qu'il va faire de vous. Parce que le diable, vous ne le connaissez pas, le séducteur. Le jour où il va prendre le pouvoir, vraiment, réellement, vous allez voir ce qu'il va vous faire. Et ça, vous allez regretter de l'éternité en l'éternité. Et donc, il va rentrer par ce canal-là, par cette grande porte qu'on va lui ouvrir. C'est un grand boulevard qu'on va lui ouvrir. Et vous allez vous rendre compte que lorsque l'association va disparaître, regardez, l'association a disparu complètement. Ce sol de l'amour a disparu. Ils vont dire, mais oui, mais il y a des gens en marinière. Quand ils ont commencé à prier au nom de Guillaume, une fois, c'était le début de la fin. Parce que ce n'est plus l'Ouzolo, ça. À l'Ouzolo, on ne prie pas au nom de Guillaume. Ça, c'est autre chose, ça. Hein? Ce n'est plus les choses, les affaires de l'organisation, puisque l'organisation PH, c'est Jésus. Donc c'est au nom de Jésus qu'on doit prier, c'est tout. Donc lorsqu'on ne prie plus au nom de Jésus, soit on sort de ce corps-là. C'est-à-dire on prend part aux œuvres du diable, c'est tout. Voilà la finalité, c'est quoi? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Hein? Les gens, ils n'ont plus d'espoir. Ah, comment on va faire? Mais oui, mais c'est fini, vous allez tous être fusionnés maintenant. Vous n'aurez plus le droit de vous retrouver gauche-droite, machin. On dira, vous êtes qui là? Vous là? Vous êtes qui? Oh, nous sommes le Zolom Vungu. Mais vous n'existez pas, hein? Et vous là, c'est qui? Ah, nous, on est le Zolo Hiérarchie. Mais vous n'existez pas, hein? Et vous là, c'est qui? Ah, nous, c'est le Zolo Levin Zengi, là. Et vous n'existez pas. La seule le Zolo que nous connaissons, c'est le Zolo Papa Charles, par exemple, hein? Et donc, va s'accomplir la parole de Dieu. Oui. Ah, bien aimé. Je suis contraint de dire les choses clairement. Oui. Je ne veux plus cacher, oui, à mes frères et sœurs ce qui se passe. Ça, c'est que c'est une abomination, ce que vous voyez là. C'est une abomination. Hein? Où le maître est devenu le créateur et Jésus-Christ son fils. Mais ça, c'est une abomination. C'est la démence, ça. Je vous ai dit de ne pas prendre part à ces choses-là. Vous voyez, hein? Ne prenez pas part à ces choses. Non, quand même. Quand allez-vous comprendre que ce n'est plus ça? Nous sommes arrivés à ce moment-là où les deux témoins sont tués. C'est nous. Nous sommes par terre. Mais nous ne sommes pas complètement morts parce que voilà, nous parlons. Vous voyez? Donc, il y a toujours une artère là. Titi, 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 titi. Ben oui. Jusqu'à ce que, passé ces jours de souffrance, ils vont tous. Mais là, vous voyez la fête, ce que l'Apocalypse dit. Une fois que le corps est tué de deux témoins, mais ils vont se partager les présents, les rois de la terre. Oui. Il dit les chefs de l'Asla. Ils vont se partager les présents. Ils disent non, on a réussi notre coup. Ce gemme-là n'était pas puissant, hein? Il disait qu'il était puissant, qu'il voyait Dieu. Voilà, on a contourné. On a mis par terre son association. On a tout écrasé. Mais on attend. L'antéchrist va nous donner des pouvoirs. Lui, il était égoïste. Il ne nous a pas donné ceci. Il disait qu'il a vu Dieu. Que lui qui voit Dieu. Mais nous, on voit aussi. Voilà. Nous aussi, on a. Il y a quelqu'un qui vous a montré son bâton de commandement aussi. Vous avez vu ou pas? C'est parce que vous ne faites pas attention. Et nous aussi, on a eu. Et lui, il ne nous a pas donné ci, 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 ci. Là, maintenant, on a. Oh, on est content, on est fier. Ah, ils vont se partager des présents. La victoire, vous voyez ça, vous avez vu ou pas? Milolo, on a gagné. Ils ont gagné quoi? Frères et sœurs, qu'avez-vous gagné dans tout ça? La veille de la rémission de péché, qu'avez-vous gagné? N'oubliez pas la rémission de péché, ce que ça veut dire. Vous avez gagné quoi dans tout ça? Si vous comprenez bien rien, et qui a gagné dans tout ça? C'est l'ennemi. Oh, c'est Papa Émile qui a gagné. Mais comment ça, Papa Émile va gagner? Comment ça? Eh? Non. Parce que devant lui, lui le Seigneur de toute la terre, les deux témoins seront tués. Ses enfants seront tués. Donc c'est les moments les plus difficiles pour lui. Parce que ces deux témoins qui se tiennent en face de lui vont être tués. Donc son association va être tuée. Et les gens vont faire la fête, c'est ce que vous voyez. Se partager des présents. C'est ce que vous voyez là. Hein? Si vous voulez que je vous ouvre les yeux la veille de la rémission du péché, c'est ça que je vous demande, mes bien-aimés, vous qui écoutez cette prédication. Je sais qu'il y a au moins trois qui écoutent. Vous voyez, le Seigneur, il était sur la terre, une parenthèse. Il était Dieu, hein? Le Seigneur Jésus-Christ. Il a eu combien d'apôtres? 12. Imaginez qu'il était donc. C'est quel peuple? Au milieu de quel peuple il était? C'est le même, c'est ce peuple-là. Voyez-vous? C'est ce peuple-là. C'est le même peuple chez qui le Christ est venu. Mais combien ont cru en lui, qui l'ont suivi? Au final, 12 seulement, 12, vous imaginez, 12. Alors pourquoi voulez-vous que la majorité. Non, là où vous voyez les gens, les foules là, c'est pas seulement dit, l'esprit est là où les gens vont, hein? Non. Non, oui, hein? Non, mes bien-aimés. Donc, je voulais vous dire ceci. Pendant 3 jours, là, le corps sera par terre. Et ils ne vont même pas vouloir faire un sépulcre. Vous avez vu ce signe-là de sépulcre que Dieu a voulu vous montrer à Kibossi, un tombeau, là, qu'ils ont mis à Kibosi, c'est pour vous réveiller. C'est pour vous dire, tiens, mes bien-aimés, les enfants, nous sommes dans l'Apocalypse 11. Le signe du sépulcre qui est là, de Guillaume le Fossé de Kwabo, rajoute encore, vous donne encore des enseignements sur ce que nous vivons à la fin. Donc là, je suis en train d'ajouter et de vous mettre chaque chose à sa place, voyez. Donc ils vont se partager les présents, ils vont dire, oh, ils vont même pas faire un sépulcre, voyez. Il y a le signe, il y a le sépulcre qui est là, voyez. Mais qu'est-ce qui va se passer 3 jours après? L'esprit, voyez, du Seigneur va donc rentrer en eux. Donc l'association Luzolo, qu'on a cru là, qu'elle est morte, elle va se réveiller, boum! Et Dieu va dire, montez! Voyez, ici, ce qui va se passer, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Voyez, les vrais Luzolifiés, les vrais machins vont être rassemblés par Dieu. Et Dieu leur donnera une puissance! À tel point que partout où ils seront, sur les 4 coins cardinaux, le monde sera effrayé. Parce qu'ils vont sortir de partout. La lumière de Dieu va rentrer en eux. Partout où ils sont, aux États-Unis, en Chine. Parce que les vrais enfants de Dieu, ils vont se réveiller le même jour. Et Dieu va les rassembler. Et c'est ça, son association. Quand le maître dit, ce vent va souffler, va emporter tout le monde, ne resteront que ceux qui vont rester. Ceux qui vont rester à Luzolo, ce sont ceux-là qui vont continuer. C'est qui et qui va rester à Luzolo? Mais ce sont les vrais. Et à la fin, vous voyez, un esprit vivifiant va rentrer en eux. Et Luzolo va renaître. Mais ce sera une Luzolo différente. Et en ce moment-là, ce qui est caché va être visible. Donc vous voyez, hein, ce que je vous ai expliqué va être visible. Et Dieu va leur dire, montez. Vous voyez, montez. Dieu va les enlever des 4 coins du monde. Hein? Il va les enlever tous. Ses vrais enfants, il va les mettre à part. Ce sont eux qui prendront les rênes de l'association. Et les chefs seront nommés parmi eux. Les chefs de l'ASLA sortiront de ces gens-là, qui brillent avec une lumière très forte. Donc, ils sont cachés, les vrais, ceux qui vont diriger l'ASLA, mais ils sont cachés. C'est pas ceux-là que vous voyez, hein? C'est pas cela. Il faut comprendre l'histoire de l'ASLA. Vous voyez, qui le GEM a envoyé pour introniser Papa Charles? Qui le GEM a envoyé pour s'occuper de Papa Charles? C'est DP, hein? C'est Papa DP, oui ou non? À qui le GEM a dit, ah, reste seulement comme ça, comme ton père et ta mère t'a mis au monde. Mais à quelqu'un qui est là, oui? À qui le GEM dit, ah, toi aussi, hein, Papa Mikungi, hein, au dernier jugement, tu seras là, hein? Donc, vous croyez que le GEM ne sait pas ce qui se passe? Il sait. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on peut vous dire. Il sait, mais il nous a déjà averti ce qui va se passer. Donc, c'est par eux que va arriver la fin. C'est par ces gros chefs-là que la fin va arriver. C'est tout ce que ça veut dire, vous voyez? La fin arrivera par ces gros chefs-là. C'est eux qui mettront, c'est eux qui termineront la première phase. L'ancienne ASLA, hein? L'ASLA, vous voyez, la nouvelle, enfin la première nation, si vous voulez. C'est eux qui terminent la première nation. Et la deuxième nation, elle sera ouverte en ce moment-là par les nouveaux qui viennent. Ceux qui seront recrutés par l'Éternel. Ceux en qui l'Esprit viendra habiter. Ceux qui seront rassemblés sur les 4 points du monde. Et qui seront remplis de son esprit. Ceux à qui dira, mes enfants, montez. Ce sont les deux témoins de l'Apocalypse. Bien, mes bien-aimés, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je vais rappeler à mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Vous êtes divisés par les responsables de l'ASLA. Vous êtes divisés par Papa Charles, par Papa DP, par Papa Lévi Nzengi, par je ne sais pas qui encore, là, par ces gros chefs-là, vous êtes divisés. Écoutez, faites un effort avec vos frères et sœurs, n'est-ce pas? C'est pas parce que les gros chefs ne s'entendent pas que vous n'allez pas vous entendre. Non, vous dépassez ça. Il faut vous entendre. Si vous avez un problème avec votre frère, régler ce problème-là, voyez? Même s'il est de Mvungu, je ne sais pas d'où là. N'oubliez pas que lorsque vous êtes rentré à l'Ozolo, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas les Mvungu, il n'y avait pas les Ararat, il n'y avait pas de... Ouais, il n'y avait pas tout ça. Il y avait le GEM. Pensez au GEM, point. Le GEM n'est ni de droite, ni de gauche, ni de je sais pas. Le GEM n'est ni de Mvungu, ni d'Ararat, ni de hiérarchie, ni de Levin Zengue. Le GEM n'est pas dedans. Hein? Parce que tous y prient au nom de Guy-Émile. Ils le considèrent comme Dieu. Donc il n'est pas dedans. Lisez les notes, vous allez vous-même comprendre. Qui n'est pas dedans? Là où les gens le confondent à son créateur, il n'est pas. Donc je ne sais pas quel Guy-Émile est là-bas. Hein? Si c'est Loukeba, peut-être, je ne sais pas. Hein? Ça, c'est vos histoires. C'est-à-dire que Guy-Émile est avec les deux témoins de l'Apocalypse. Qui sont-ils les deux témoins de l'Apocalypse? Ce sont les véritables adorateurs de Dieu qu'il adore en esprit et en vérité et qui sont dispersés dans le monde entier. Oui? Et qui seront rassemblés lorsque l'Esprit de l'Éternel descendra. Mais entre-temps, l'association doit être tuée. L'association doit mourir, symboliquement. C'est ce que vous voyez. Donc, connaissant cela, mes frères et sœurs, tournez-vous vers le GEM. Si vous vous tournez vers le GEM, alors c'est fini, vos histoires de division. Vous allez vous retrouver les uns les autres et préparer votre rémission de péché tranquillement, parce qu'il s'agit de ça. Hein, hein. Parce que si vous suivez les responsables, là, vous allez rater votre rémission de péché. Eh, hein? Mais bien aimé, vous m'avez suivi. Je m'arrête là. C'était toujours bon à votre humble serviteur. Pas basse, 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 C'était quoi, beau? C'était quoi, beau? La voix et la bouche autorisées dans l'organisation PH pendant les moments difficiles. On reconnaît les vrais amis pendant les moments difficiles. S'il n'y a pas de bonne jamais équipé. Monsieur le bien, bienvenue dans la Kékolo. Pour toi, quoi, l'homme de Kibossi, parce que ça la valait, me battre la valait, le fils chic et natif de Papa Guillaume, il faut c'est quoi, beau? Le fils bien-aimé, Papa Guillaume, il faut c'est quoi, beau? Le fils à l'enfant. Battez-les, bah, si dit. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, mais je crois qu'on sera déjà. Dans la rémission des péchés. Vous voyez, bon, on va peut-être clôturer hein, cette rémission aujourd'hui, la fête. Et la prochaine fois, ben, nous serons dans en plein dedans. Hein. Ça commence jeudi, vous voyez, jeudi déjà. Vendredi, samedi, dimanche, nous serons occupés, vous voyez. Mais que chacun de nous écoute. Et puis vous venez régulièrement sur le site, vous voyez. Je vous mettrai... je vous rappellerai les enseignements de papa. Et ben, nous serons tous dans la préparation hein, de cette grande fête. Vous voyez ne soyez pas dessus, regardez les choses, je vous ai expliqué ce qui se passe. Et ayez confiance en Dieu. Car l'après, après ce qui se passe, là, je vous en ai parlé. Voyez-vous, c'est une bonne nouvelle après. Voyez, c'est la joie. Vous voyez, parce que là, ce serait fini. Toute cette pagaille, elle va finir lorsque l'Esprit de l'Éternel va descendre. Et c'est cet Esprit qui va écarter, qui va mettre les uns à gauche, les autres à droite. Et c'est une puissance telle que personne ne pourra mettre l'arrêter. Et alors, vous verrez sortir les vrais responsables de la cela, qui vont conduire la cela de l'éternité en éternité. Des vrais enfants de la cela, qui vont sortir... Et c'est au prorata de la lumière qu'ils portent en eux qu'ils seront responsabilisés. Et alors vous verrez, si les responsables actuels de l'Ozolo, là, ils ont la lumière, vous verrez les ténèbres qu'ils ont en eux. Ça sera découvert, plus rien ne sera caché. Et ils mériteront ce qu'ils méritent. Et ils iront là où ils ont choisi. À moins qu'ils se répandent maintenant. Hein? Mais je vois que non, ils persistent dans leur voie. Parce qu'ils se sentent forts. Eh bien, très bien. Et nous, on a averti. Vous voyez? Et pardonnez-moi encore les gros chefs de la SLA. J'ai cité vos noms. Je ne voulais pas le faire, mais je suis contraint de le faire. Hein? Parce que je vois l'association par terre. L'association, elle est morte. Vous l'avez fait. Vous avez atteint votre objectif. Il n'y a plus de raison de pouvoir rester silencieux, vous voyez ? Voilà pourquoi je dénonce.
Et pardonnez-moi, hein. Et prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. C'est encore moi, votre humble serviteur,
rendez-vous la prochaine fois. Merci, au revoir.